VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 avril 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, au Tchad, arrestation de 4 suspects qui seront impliqués dans l'attaque d'un convoi de soldats prisonniers. République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Claude Muyombo est condamné à 5 ans de prison. Au Nigeria, le gouvernement affirme être en négociation avec Boko Haram pour la libération des lycéennes enlevées de Chibok il y a 3 ans. Retrouvez Eric Manirakiza à la fin de ce journal pour l'e-sport et Abdourahman Dia pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Au Tchad, les suspects impliqués dans l'attaque de soldats prisonniers qui devaient être transférés de N'Djamena à la prison de Korotoro ont été appréhendés la nuit passée par les services de sécurité. Ils ont été présentés ce matin à la justice de N'Djamena. L'attaque, souvenez-vous, avait fait 10 morts. Le point avec André Komadjingar, notre correspondant sur place.
Après la sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena hier, les choses sont allées trop vite pour calmer les esprits de Tchadiens qui semblent être désemparés suite à cette attaque. Cette situation met à rude épreuve l'autorité de l'État. Depuis hier, non seulement les internautes pensent que le Tchad n'est pas un État, mais ils appellent à la démission du ministre de la Justice. Pour atténuer la tension, les autorités en charge de la sécurité ont mis des bouchées doubles pour arrêter 4 présumés assassins hier, dont un chef de groupement de la garde présidentielle selon les sources judiciaires. Ces présumés auteurs de ce massacre ont comparu en citation directe ce matin au palais de justice de N'Djamena. Accusé de coups et blessures volontaires mortelles, le procureur général a requalifié l'acte de crime d'assassinat. Tous ont reconnu les faits. L'un d'entre eux a même déclaré qu'il a vengé son grand frère, un général de l'armée tué en janvier dernier. Pour se débarrasser de cette patate chaude, le tribunal de grande instance de N'Djamena s'est déclaré incompétent alors que le parquet demande de vider le dossier en procédure d'urgence. Vu la complicité de ce dossier, l'affaire sera confiée à un juge d'instruction pour la suite de l'enquête. Le juge d'instruction aura à déterminer s'il y a une complicité au sein de la maison d'arrêt ou non. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Claude Muyombo a été condamné hier par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à 5 ans de prison et à une amende de 10 000 $ américains. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance et rétention illicite de documents. L'affaire l'oppose depuis 3 ans à Greg Soupis, qui avait déjà obtenu la condamnation à 3 ans de prison ferme de Moïse Katumbi. Réaction de son avocat, maître Thierry Mouteba.
Par rapport au dernier recours, il y a la cassation qui reste à faire, s'il trouve opportun de le faire. Mais par rapport à cette condamnation, je crois qu'on était déjà informé que notre client allait être condamné à 5 ans. Donc ce sont des choses auxquelles on s'attendait déjà. Autrement, ou avoir une autre nouvelle, ça allait être une surprise pour nous. Bon, c'est la justice, elle a pris la décision. Nous estimons peut-être qu'elle a pris la décision qu'il fallait, mais par rapport aux moyens qui a été développé au premier degré, nous pensons que la justice devait faire autre chose. Personnellement, je suis déçu. Il est reconnu coupable pour abus de confiance sur l'immeuble pour lequel Moïse Katumbi a été condamné, Maenge Kato, et ainsi que l'immeuble de Kolwezi qui appartiendrait à Soupis Joachim, ainsi que de la rétention illicite des documents. Pour ce qui est normal, le temps qu'il a déjà passé en prison sera compté. Donc il reste lorsqu'on soustrait sur les 5 ans, à moins qu'il n'aille pas en cassation. Parce que s'il va en cassation et que les juges de cassation arrivent à réformer la décision, c'est autre chose. Mais s'il acquiesce cette décision, donc il reste 2 ans et 4 mois ou 6 mois à faire.
Incendie dans le sud-est du Sénégal. Au moins 22 personnes sont mortes hier alors qu'ils participaient à une retraite spirituelle à Medina Gounas. Le bilan provisoire fait état de 87 blessés. L'incendie a été suivi d'une bousculade. L'origine de cette tragédie demeure inconnue. Il faut dire que le Daka est organisé chaque année pendant une douzaine de jours par la confrérie des Tidianes. Au Nigeria, le gouvernement affirme être en négociation avec Boko Haram pour la libération des lycéennes de Chibok, enlevées il y a 3 ans. Cette annonce intervient au même moment où une nouvelle attaque meurtrière dans le nord-est du pays a été attribuée au groupe djihadiste nigérian. Jacques Aristide.
L'attaque a été perpétrée par deux kamikazes qui ont déclenché leurs explosifs à un poste de contrôle de Dalory, près d'un camp de déplacés à la périphérie de Maïdougouri. D'autres combattants ont alors ouvert le feu. Un soldat a été tué et un policier blessé. Les djihadistes ont récupéré des armes avant d'être repoussés par des soldats arrivés en renfort. Malgré l'intensification ces dernières semaines des attaques de Boko Haram, le président Muhammadu Buhari déclare dans un communiqué que son gouvernement est en contact constant par des négociations, des activités de renseignement pour obtenir la libération des dernières captives de Chibok et d'autres personnes kidnappées. Boko Haram avait enlevé quelque 270 lycéennes en avril 2014 à Chibok. 195 manquent toujours à l'appel. Une vingtaine d'entre elles ont été libérées en octobre dernier grâce à l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge.
Piraterie dans le golfe de Guinée. Deux soldats nigérians ont été tués hier par des pirates dans le delta du Niger. L'armée compte trois soldats grièvement blessés. Ils tentaient de sauver un bateau attaqué par des pirates, ce qui a entraîné des affrontements. En Somalie, plus de 500 personnes sont mortes depuis janvier de choléra et de diarrhée aiguë menacée de famine. Le point avec Solange Miamoulissa.
533 décès suite à une épidémie de diarrhée aiguë et de choléra ont été recensés en Somalie depuis le début de l'année. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que près de 25 000 personnes ont été affectées durant cette période. L'ONU estime que le nombre de personnes affectées pourrait doubler à 50 000 d'ici à la fin juin. Le taux de létalité lié à l'épidémie est de 2,1%, soit deux fois plus élevé que le seuil d'urgence. Les régions du Moyen Djouba et de Bako dans le sud sont les plus touchées. Environ 6,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire d'urgence en Somalie, ravagée par la sécheresse. L'ONU ne prévoit pas d'amélioration pour les 6 prochains mois. En 2011, la famine en Somalie avait fait au moins 260 000 morts.
Au Soudan du Sud, les violences se relèvent du génocide. C'est en tout cas ce qu'estime le gouvernement britannique. Londres dénonce des meurtres ciblés sur une base ethnique dans ce pays frappé par une guerre civile depuis 2013. Il faut dire que le président Salva Kiir, un Dinka, et son ancien vice-président Riek Machar, un Nuer, se disputent le pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Drame de l'immigration, au moins 97 personnes ont disparu dans un naufrage au large de la Libye. Un chiffre donné par 23 rescapés de différentes nationalités africaines, soulignent les autorités. Depuis le début de l'année, au moins 590 migrants sont morts ou portés disparus au large de la Libye, selon un bilan provisoire de l'Organisation internationale pour les migrations. Attaque chimique présumée dans le nord-ouest de la Syrie, le président Bachar al-Assad accuse les pays occidentaux d'avoir monté de toutes pièces cette affaire. Dans un entretien exclusif accordé à l'AFP, M. Assad a affirmé que son armée n'était pas responsable de l'attaque chimique présumée qui a provoqué, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la mort de 87 civils à Khan Cheikhoun le 4 avril. Bachar al-Assad pense que l'Occident, principalement les États-Unis, est complice des terroristes, que l'attaque a été montée pour servir de prétexte en représailles menées le 7 avril par les États-Unis contre une base aérienne du régime. Et Syrie toujours, près de la ville de Tagba, dans le nord-est, la coalition a tué par erreur 18 combattants alliés des forces démocratiques syriennes, selon le Pentagone. Le FDS avait été identifié comme une position du groupe État islamique, alors que c'était une position avancée. L'ONU met fin à la mission des casques bleus en Haïti. Le Conseil de sécurité a décidé de les remplacer par une force de police plus restreinte. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti était déployée depuis 13 ans. Enfin, c'est aujourd'hui Pessah, la Pâque juive. Des dizaines de milliers de croyants ont donc célébré devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Abdourahmane Dia, la Minute Éco.
Au Zimbabwe, les entrepreneurs auront bientôt la possibilité d'utiliser des moyens mobiliers comme leurs véhicules ou même du bétail comme garantie auprès des banques afin de bénéficier de prêts. Le Parlement a voté une loi dans ce sens. L'objectif est d'aider ceux qui s'activent dans le secteur informel d'accéder au financement bancaire. Sur 4 milliards de dollars de prêts bancaires l'an dernier, seuls 250 millions sont allés aux petites entreprises. Début aujourd'hui à Abidjan d'une réunion de deux jours des pays de la zone CFA, une monnaie sous attaque depuis janvier par des activistes qui appellent à son abolition. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara a dénoncé cette semaine des informations fallacieuses sur le CFA. Aujourd'hui, les experts de la région se réunissent et demain, les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des États membres de l'UEMOA et de la CEMAC ainsi que les Comores se retrouvent pour leur réunion biannuelle. Le premier fonds commun de placement islamique de l'espace UEMOA vient de voir le jour à Dakar. Dénommé FCP Al-Baraka, le fonds a été créé à l'initiative de CGF Bourse et de CGF Gestion. FCP Al-Baraka se présente comme un fonds à dominante action qui investit dans des produits financiers conformes aux exigences de la loi islamique en termes de structuration et de rémunération. Le lancement a eu lieu hier dans la capitale sénégalaise. Le gouvernement ivoirien veut simplifier le paiement d'impôts. Il a lancé hier le e-impôt, un portail de déclaration et de paiement des impôts et taxes en ligne. Pour le premier ministre Amadougon Koulibaly, cette innovation va changer la donne au niveau du recouvrement.
L'info sur les stades, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Morgane.
On commence en football. L'AC Milan vendu à des Chinois.
C'était le bébé de Silvio Berlusconi durant 31 ans. Cédé enfin pour 740 millions d'euros. Pas mal en tout cas Morgane. Berlusconi parle même d'un acte d'amour, de coup de cœur en coup de cœur. Son parcours est marqué par une succession de chiffres et d'images. 8 Scudetti, 5 Ligues des Champions, les buts de Marco Van Basten, Shevchenko ou Kaka, les dreadlocks de Ruud Gullit, les yeux clairs de Maldini, le maillot rouge et noir ou le signal du capitaine Baresi commandant la remontée de sa défense pour piéger l'adversaire, c'était la gloire Morgan. Peut-être que la nouvelle direction va rééditer ses anciens succès.
En Angleterre, on connaîtra le joueur de l'année le 23 avril.
Tout à fait, Morgan. Le milieu français N'Golo Kanté, l'attaquant suédoise Zlatan Ibrahimovic font partie d'une liste de 6 noms choisis pour désigner le meilleur joueur du championnat d'Angleterre de la saison 2016-2017. Eden Hazard, Chelsea déjà distingué en 2015, Alexis Sanchez, Arsenal, Harry Kane, Tottenham et Romelu Lukaku, Everton, complète la liste. L'association des joueurs le dévoile jeudi.
Et l'attaquant argentin Paulo Dybala est désormais lié à la Juventus pour longtemps.
Effectivement, brillant mardi en Ligue des Champions contre Barcelone. Le club italien a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus Turin. Il est désormais lié jusqu'en 2022. Et en 82 matchs sous le maillot de la Juve, il a marqué 39 buts et donné 16 passes décisives.
Et puis l'Algérie qui recrute un nouveau sélectionneur.
Annonce de la Fédération des Fenech, il s'appelle Lucas Alcaraz, natif de Grenade et figure de ce club espagnol sous sa responsabilité depuis octobre dernier, sans toutefois atteindre les résultats escomptés.
27e édition du Tour cycliste international du Togo.
La compétition est à sa 3e étape. La moyenne de l'épreuve est de 39,288 km/h. L'Ivoirien Cissé Issiaka est en tête, suivi du Français Bousquet Pascal, tandis que le Malien Diallo Yaya occupe la 4e place.
Et enfin, NBA, 22 millions de spectateurs en 2016-2017.
Record battu pour la 3e année consécutive, selon la NBA. 21 997 1412 spectateurs ont assisté au match de la saison régulière 2016-2017 contre 21 972 129 la saison dernière, soit une progression de 0,1% sur un an. Le nombre de matchs disputés à guichet fermé s'est établi à 723, égalant le record de 2015-2016 un autre signe du succès du championnat de basket le plus relevé de la planète, Morgan.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. La Centrafrique peine toujours à se relever du conflit provoqué en 2013 par le renversement de l'ancien président François Bozizé. Les affrontements ont provoqué, souvenez-vous, des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés, plongeant le pays dans le chaos. Selon Médecins Sans Frontières, le conflit s'intensifie avec de nouveaux foyers à travers tout le pays. Blanche Sanou a joint Augustin Mazikou, référent médical en Centrafrique.
La situation en Centrafrique est en train de se détériorer de plus en plus. Les conflits sont en train d'aller atteindre, joindre même les milieux qu'on pensait qui étaient plus calmes, là où il n'y avait pas de conflit. Ces milieux-là sont aussi affectés par les conflits. Et nous sommes en train de vivre des villages qui sont en train d'être brûlés par des groupes armés. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de malades qui sont blessés. Nous recevons aussi des malades qui ont été beaucoup traumatisés par la situation qui se passe dans ces pays-là.
Et quel est l'impact de ces conflits sur la population?
L'impact de ce conflit, c'est que la population est en train de souffrir sérieusement. Nous sommes sur le terrain avec la population dans nos projets médicaux. Alors, nous remarquons que la population est en train de souffrir beaucoup. Il y a premièrement les déplacements de la population. Lorsque un village est attaqué, la population se déplace de ce village vers la brousse ou vers le village voisin pour se protéger, pour prendre soin d'eux-mêmes. Nous voyons des malades que nous recevons dans nos hôpitaux qui sont blessés par ces conflits-là, soit par la violence, soit par en train de fuir, ils étaient tombés et ils sont blessés, soit ils ont été tirés par une balle, ainsi de suite. Nous avons reçu d'ici là, depuis novembre, au moins 168 malades, 168 personnes blessées par balle.
Vu l'intensification des conflits, comme vous dites, que fait MSF concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, nous sommes en train de prendre soin de tous ces gens-là. Nous avons des malades qui viennent par eux-mêmes, soit la population ou les amis ou les voisins les amènent dans nos centres de santé et nous prenons soin de ces malades-là. Mais ces soins-là ne sont pas donnés à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils sont loin et du fait qu'ils sont très blessés, ils ne peuvent pas arriver à nos centres. Donc c'est de cette manière-là que nous essayons de, s'il y a la paix, nous pouvons nous-mêmes accéder à ces endroits-là. Parfois, nous ne pouvons pas accéder à ces endroits-là pour avoir accès aux malades et les malades ne peuvent pas accéder là où nous sommes.
Que faut-il faire, à votre avis, pour stopper l'hémorragie?
Nous voulons peut-être que la communauté internationale puisse faire appel à tous les groupes qui sont en train de se battre dans ces pays-là. Ils appellent la paix pour ces pays-là. Parce que si ces groupes-là peuvent mettre la paix, la population ne va pas souffrir. Dans toute cette situation, ceux-là qui souffrent, c'est la population. Ce ne sont pas ces groupes-là qui sont en train de se battre.
Augustin Mazikou, référent médical en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Burundi, la ministre de la Santé a déclaré l'épidémie de malaria dans le pays. Ces trois derniers mois, 949 personnes sont mortes du paludisme, tandis que 1 800 000 personnes vivent avec la malaria. Le gouvernement indique qu'il a besoin de 32 millions de dollars pour combattre cette épidémie. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu au centre de santé de l'organisation Action de lutte contre la malaria.
Au quartier Sokarti, dans Kamenge, au nord de Bujumbura, un dispensaire accueille de lundi au vendredi des enfants, des femmes et hommes qui viennent se faire dépister du paludisme. Cette maman, avec ses deux enfants, est venue dans ce centre de santé qui ne demande presque rien pour le dépistage.
Je suis venue faire dépister mes deux enfants pour voir s'ils ont la malaria. Ils ont des températures élevées, de fièvre avec la toux. Maintenant, ils ont donné leur sang. J'attends les résultats. Je viens ici car on ne demande pas beaucoup d'argent. En fait, ce sont comme des bienfaiteurs, car on n'a pas d'argent. Un enfant donne 100 francs burundais, tandis qu'un adulte paie 500 francs.
Une cour vaste accueille des malades. Ce jeune homme affirme que lui aussi est venu faire un dépistage alors qu'il y a 5 mois, il avait eu la malaria.
Considérant les symptômes que j'affiche, je crois que je souffre de malaria. C'est le céphalée, le toux, le rhume et l'asthénie. J'ai pris du quinine.
Gilbert Ndizeye, laborantin de l'action de lutte contre le paludisme, il estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se dirigent chaque jour à ce centre de santé.
Vous souvenez-vous que le gouvernement a déclaré que c'était un fléau? Les patients sont prisés qui se présentent à l'allumage, c'est-à-dire avec ceux de l'étonne de la malaria. Ça a dépassé 50%. Maintenant, c'est entre 65 et 70. On lui donne de la quinine.
Cette infirmière fait état de plus de 52% de personnes malades de paludisme qui se dirigent quotidiennement à ce centre.
Le mois passé, c'était aux environs de 1915 patients qui se présentaient ici. Mais le temps de pourcentage était de 52%. Et le total des patients positive était 1011. Je pense que c'est une épidémie.
Pour le représentant légal de l'ONG Action de lutte contre le paludisme, Albert Mbonerané, s'il est vrai que le gouvernement burundais a déclaré la malaria comme une épidémie, il faut articuler son action autour de 3 objectifs.
Il faut que les Burundais soient éduqués à la lutte contre le paludisme, que les Burundais sachent que le paludisme, c'est une maladie qui tue beaucoup de gens, mais qui guérit si on la traite comme il faut. Deuxièmement, il faudrait une sensibilisation régulière pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire pour se prévenir contre le paludisme. Troisièmement, il faut que le gouvernement investisse dans l'acquisition des médicaments essentiels, je dis la quinine, l'artisanat, mais que ces médicaments soient disponibles et gratuitement pour toute la population.
Pour Albert Mbonerané, le gouvernement doit urgentement inviter les partenaires autour d'une table ronde pour transmettre les messages d'urgence, car un problème sans solution est un problème mal posé, comme l'avait dit Albert Einstein. Et cela en vue de sauver les vies humaines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant.
En l'absence d'intervention, les taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interventions efficaces permettent toutefois de ramener ces taux à des niveaux inférieurs à 5% selon l'OMS.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Des centaines de réfugiés du Sud-Soudan ont traversé la frontière avec l'Ouganda après avoir fui la ville de Pajok, une communauté agricole et commerciale que les forces pro-gouvernementales ont attaquée le 3 avril, tuant au moins 85 personnes. Ils racontent leur calvaire, un récit de Salwa Jafari.
La traversée du No Man's Land entre le Sud-Soudan et la frontière de l'Ouganda et le dernier obstacle d'un périple dans lequel David et sa sœur ont dû se lancer malgré eux. David regarde droit devant lui. Son village, il l'a quitté pour de bon.
Moi, je ne reviendrai pas là-bas. Parce que j'ai vu et j'ai vu de mes propres yeux, je n'y retournerai pas. Mieux vaut mourir quelque part dans l'enfer, mais pas au Soudan du Sud.
Cela fait 2 jours que ces réfugiés marchent pour se mettre à l'abri. Comme David, plus de 5000 personnes de Pajok ont fui pour rejoindre l'Ouganda voisin, où ils ont trouvé un semblant de sécurité, mais pas le confort. Le camp manque d'abri et l'armée sud-soudanaise n'est jamais loin. Philippe vient de retrouver sa famille. L'armée l'avait arrêté et l'avait forcé à compter les cadavres qui jonchaient les rues. Il a insisté pour les enterrer avant de s'enfuir. Il en a gardé des séquelles, d'énormes cloques sur les mains.
All about we have counted is 85.
J'ai compté 85 cadavres qui ont été fusillés par les soldats du gouvernement. Je n'ai réussi qu'à enterrer 13 d'entre eux.
La guerre civile a fait des milliers de victimes au Sud-Soudan, des femmes surtout. Celles qui sont prêtes à en parler racontent l'enfer qu'elles ont vécu. Les passages à tabac, les viols perpétrés par les soldats du gouvernement. Josca Lamo s'en souvient comme si c'était hier.
Je suis tombée par terre et il a marché sur moi avec ses godasses. Puis il m'a tiré par les pieds et m'a demandé de lui donner ma fille. Il y avait une fille avec nous. Je lui ai dit que ce n'était pas ma fille et que nous fuyions ensemble. Il a dit que je mentais. Un des soldats l'a emmené dans une maison à côté de nous. L'autre est resté avec moi à l'extérieur. Nous étions à l'extérieur de la porte et nous avons entendu la fille pleurer.
En attendant de déménager dans des établissements qui leur sont réservés, les réfugiés se débrouillent comme ils peuvent pour retrouver un semblant de vie normale. L'Ouganda n'est qu'un refuge temporaire, mais le provisoire pourrait devenir permanent, comme c'est souvent le cas dans les camps de réfugiés. Washington Forum ce jeudi, on décrypte la polémique autour de la CPI. Après le Burundi, l'Afrique du Sud menace de partir. Jamais aucun pays dans le monde n'a encore quitté la Cour pénale internationale. Premier tribunal international permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À ce jour, seuls 123 États adhèrent à ce traité. Sur le continent africain, la politique de deux poids, deux mesures est régulièrement critiquée. Pourquoi ce sentiment d'une justice à deux vitesses? Quelles sont les limites de la CPI? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Mettre fin au monopole des compagnies étrangères dans l'industrie d'aliments pour bébés, c'est l'objectif de Pascaline Nandé, une jeune entrepreneure camerounaise. Elle propose la première alternative commerciale à ce business très lucratif. Le point avec Michel Joseph.
Pascaline Nandé est une entrepreneure camerounaise avec une vision, celle de s'imposer sur le marché des céréales pour bébés. Son produit, Désolac, est fabriqué localement à base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre. Désolac se veut une alternative aux marques bien connues, mais importées. Pascaline Nandé.
À 6 mois, je me suis rendu compte que je pouvais pas lui offrir les céréales qu'on vendait sur le marché. Je parle de céréales instantanées parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel il devient insuffisant. Alors, lors d'un de mes voyages dans mon village, je me suis aperçu que les sœurs de mon village grillaient du blé qu'elles redistribuaient aux enfants de la communauté pour les aider à croître normalement. Et puis, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, à partir de ça, on peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'après des expériences et expériences, ce Blézolac est né.
Au Cameroun, environ 1,2 million d'enfants accusent un retard de croissance et 45% des décès d'enfants sont liés à la malnutrition. Et Pascaline travaille avec des cliniques pour enfants à Douala. Si les affaires marchent, elle peut réaliser environ 1 200 $ de bénéfices par mois. Mais Pascaline reconnaît qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter.
Les difficultés sont très énormes parce qu'il y a d'abord un problème d'équipement. Je n'ai pas assez d'équipement pour produire. J'ai commencé à vendre par le porte-à-porte, c'est-à-dire j'allais d'un domicile à un autre pour proposer, ce qui n'était pas facile. Le packaging était dans du plastique transparent. La sous-traitance en matière d'équipement était à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu amélioré, mais il reste toujours ce grand besoin en équipement pour pouvoir produire en grande quantité et répondre à la demande parce que il a du marché, il a du potentiel.
Pascaline Nandé n'offre pas son produit qu'aux cliniques pédiatriques. Elle contacte aussi les mères qui y trouvent aussi leur compte, comme Nadège.
Premièrement, j'aime Blézola parce que j'ai entendu parler du soja. Je me suis amené vers là, j'ai acheté, j'ai dégusté. J'ai aimé son parfum, c'était bien. J'ai goûté, j'ai fait manger à l'enfant. Elle a aimé. Elle prend sans problème.
L'aventure Blézolac a commencé il y a 5 ans. Aujourd'hui, Pascaline Nandé vend 150 kg par semaine, donc une part de marché encore très modeste. Mais elle espère agrandir son business en introduisant d'autres céréales très nutritives pour accroître la variété et l'offre.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, une information de dernière minute. Les États-Unis ont largué contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe non nucléaire qu'ils aient jamais envoyée. À la mise en onde de Michel Joseph, Joe Gill à la console, présentation Morgane Diriec, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM,
à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.